pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage. Oh, eh bien, il va falloir un petit quart d'heure pour faire le tour des choses. Olivier Chevalier est avec nous aujourd'hui. Bonjour Olivier, bienvenue, directeur général de DefEdge avec nous sur BFM Business. Bon, ce jeu de montagne russe, quand même, c'est effrayant. Comment est-ce que vous survivez? Comment est-ce que vous gérez ça, vous, Olivier, fondamentalement?
C'est-à-dire que là, c'est effectivement... Non, mais je vois encore l'euro dollar qui est affiché, effectivement, 1,1627 hier, 1,1520... Bah, forcément, dès que le pétrole reprend un peu de regain, c'est une base communicante, c'est le dollar qui se renforce aussi là, qui vient de se renforcer. Donc effectivement, pour les entreprises, c'est quand même difficile à piloter. On le voit, ça descend quand même très profondément maintenant, de plus en plus dans l'économie.
Oui.
C'est-à-dire qu'on était au début en se disant, bah tiens, le pétrole, à quoi sert-il finalement? Bah finalement, on le retrouve dans plein d'activités, plein d'industries. Parce que ça reste quand même la matière première un peu par excellence pour pouvoir avoir de l'énergie quand même, pour pouvoir faire tourner nos industries. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on est touché sur différents niveaux. Je sais pas si vous avez noté que Dow Chemical oui. aussi avait dit, bah voilà, maintenant, à partir du 1er avril, je double mes tarifs sur le plastique, passe de 15 centimes à 30 centimes cette partie. Donc en fait là,
c'est 15% des volumes de plastique mondiaux, au polyéthylène notamment, qui passent par le détroit d'Hormuz, faut rappeler.
Exactement. Pareil, oui, c'est... tout à fait. Et donc là mais en tout cas on voit bien là, on commence à être touché et on va avoir en fait là aussi potentiellement, peut-être dans les 6 mois à venir, en fait, ça va toucher, ça va continuer de descendre et s'infuser délicatement dans l'économie.
Dans l'économie mondiale. On est début avril, donc le premier trimestre est terminé. Ouais, je réfléchis tout haut. Ça veut dire que les boîtes vont bientôt communiquer sur leur chiffre d'affaires du premier trimestre. Là, on va voir la différence entre, alors déjà, ceux qui causent et ceux qui ne causent pas en marge de la publication des chiffres du premier trimestre. Et ceux qui causent et pour nous dire quoi? Voilà, c'est peut-être là qu'on va avoir les premiers.
En fait, effectivement, de toute façon, on commence à avoir les premières publications qui arrivent. En général, pour les sociétés qui exportent, elles ont eu quelques difficultés, notamment sur du chiffre d'affaires qui va être lié en devises, donc lié au dollar, lié à d'autres activités. Donc on le constate, il y a eu des effets de bord en fait sur les marges des entreprises et du coup elles sont en train d'expliquer. Et après, en fait aussi, on peut pas jeter la pierre aux entreprises parce que aujourd'hui on a commencé quand même, je le disais, on était par exemple sur un dollar à 1,03 début janvier.
Quand on y pense.
Et là, on a fait quand même un grand écart. On est allé jusqu'à 1,20 et puis redescendu. Effectivement, depuis janvier 25, on est bien d'accord. Effectivement, on peut pas en fait avoir un yo-yo comme ça sur les marchés continus. Donc, il est difficile. Et, les entreprises doivent faire face aussi à des règles comptables de reporting international. Et donc, elles ne peuvent pas non plus spéculer comme elles le souhaitent. Donc, elles se doivent aussi d'être d'encadrer. Donc, elles font aussi ce qu'elles peuvent. Donc, on ne peut pas jeter la pierre parce que là, ça touche des deux côtés. C'est d'un côté le côté industriel, le pétrole. Là, on arrive vraiment sur l'énergie. On a redécouvert que le pétrole permettait
Les engrais. À ceux qui pensaient que le pétrole appartenait déjà au passé, voilà, ce qui nous arrive depuis quelques semaines maintenant vient de nous en donner une illustration frappante. Vous aviez plusieurs messages à faire passer. D'abord sur ce qu'on appelle le choc d'offre industriel. Et vous dites, on n'est pas en 2008 là. Donc, il faut regarder ça de manière complètement différente.
J'avais pris un petit tableau avec ça pour m'appareiller. C'est vrai que... À l'époque, en 2008, on avait le pétrole en fait était tiré quand même par la croissance chinoise.
Oui.
Là aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème d'offre totalement à cause du détroit d'Hormuz qui bloque vraiment toutes ces capacités. Aussi, on regarde sur les politiques monétaires. J'ai publié il y a quelques jours comment avaient réagi en fait les banques centrales.
Oui.
Or, on se dit est-ce que on doit contrecarrer comme on le fait habituellement l'inflation en augmentant les taux. Là, on voit bien qu'on a des difficultés, en tout cas, à évoluer tout court dans les marchés internationaux et financiers. Mmh. Donc, on n'a peut-être pas intérêt à augmenter les taux de la BCE.
Il y a une forte dose d'anticipation de la part des marchés d'ores et déjà. Vous avez vu, il y a beaucoup d'analystes, de plus en plus d'analystes qui commencent à nous parler de anticipation de deux hausses en avril et en juin.
Exactement. 75% de probabilité d'une hausse des taux. BCE. Mais bon, est-ce que c'est l'idéal, sachant qu'on n'a aucune marge économique, on n'a pas de latitude non plus. On est quand même des pays relativement endettés, donc une hausse des taux aussi a un coût pour tout le monde. Donc là, en fait, on subit ce choc aussi globalement. En fait, voilà, on a vraiment ce côté. Après, il y a l'épargne des ménages.
Oui.
À l'époque, ils étaient fortement endettés. Aujourd'hui, bon bah voilà, ils sont autour de 15%. Donc il y avait vraiment un ralentissement sur cette partie. Après aussi, on était dans des. On peut plus avoir des dépenses. Là, on voit bien que d'une année sur l'autre, on a du mal déjà à faire un budget d'État d'une année sur l'autre. Donc, on essaie d'être stable. Il n'y a plus de quoi qu'il en coûte, on va endiguer quelque chose, enfin, ou une crise. Donc, en fait, on a vraiment ce choc. Et puis, là, on est quand même sur la dette privée, un peu dans un événement un peu de shadow banking aussi. Hein. On soutient, mais un peu de loin. On ne veut pas non plus prendre de risques.
Oui,
donc, effectivement, on a un peu ces effets. Et donc, on n'a pas non plus une grosse panique boursière.
Il n'y a pas de panique boursière.
Il y a quand même de la liquidité. Donc,
il n'y a pas de panique boursière parce qu'il y a toujours l'idée que les banques centrales seront là, si besoin. Voilà. Si ce que vous dites se confirme, si votre diagnostic se confirme, à savoir qu'il n'est pas opportun de remonter les taux d'intérêt et s'il n'y a pas ces gestes de la part de la BCE.
L'Allemagne avait augmenté.
L'Allemagne avait augmenté
il y a quelques années son taux pendant qu'il y avait la crise pétrolière, alors que toutes les autres banques centrales avaient quand même laissé comme les taux être plus conciliants avec le marché.
Anticipation des banques centrales, donc désormais deux hausses de taux majoritairement en Europe. On verra ce qu'il en sera prochaine réunion prochainement de la BCE. Il y a plusieurs points qu'on regarde de très près. Alors évidemment, c'est beaucoup focalisé sur le pétrole, sur le gaz. Il y a aussi ce que vous appelez la bombe à retardement alimentaire, parce que là, il y a un vrai sujet aussi autour du détroit d'Hormuz, évidemment.
Bah, en fait, à chaque fois qu'il y a eu les crises, même quand on revient par rapport au début de l'Ukraine, c'est vrai que le prix des matières premières avait énormément augmenté. Et là, en fait, on voit bien, effectivement, il y a quand même une petite décorrélation, parce que quand vous regardez le prix du blé, en fait, il n'accompagne pas la hausse, comme on peut le voir sur les urées, hein, parce que les urées ont complètement doublé depuis le détroit. Après, là, ça va se stagner aussi, parce que du coup, les entreprises agricoles n'ont plus besoin forcément de consommer actuellement. Elles ont déjà passé leurs commandes. Donc voilà. Donc,
là, c'est la période de semis, là, en ce moment-là.
Exactement. Voilà. Il y a une période de semis. Et puis aussi pour pouvoir préparer les récoltes de cet été. Mais du coup, en fait, en général, quand vous avez une crise un peu sur l'énergie, ça va mettre 6, 8 mois à se distiller. Donc peut-être on aura les effets.
Même si arrêt des hostilités demain, vous dites la machine est lancée.
La machine est lancée. On a quand même produit sur des coûts plus élevés. Forcément, il va falloir que ça va se transmettre, en fait, dans l'économie. Là, ce qui ne suit pas pour le moment, c'est, on l'a vu simplement sur l'huile, le colza a augmenté, il a pris 25%, après le blé n'a pas suivi dans les mêmes proportions. Donc on voit bien, et du coup, arrêt un peu de partie semis de maïs pour se rediriger, pour ceux qui peuvent le faire, sur du soja qui est moins consommateur en fait d'intrants.
Donc
effectivement, ça va arriver plus tard. Même si, voilà, on est à l'approche de Pâques, hein, le chocolat, lui, le cacao, avait connu des pics sur ces deux dernières années, au-delà des 10 000 livres la tonne. Et là, en tout cas, on est sur des prix relativement bas parce qu'il y a une bonne offre derrière.
Donc, incidence sur le ticket de caisse des ménages à raison de quelqu'un. Vous avez eu le patron de Systemus ce matin qui dit il y a des chances que les industriels reviennent vers nous dans les prochains jours pour peut-être ouvrir la négociation commerciale, ce qui a été dealé. On commence en gros à appliquer les tarifs issus des négociations commerciales qui se sont achevées fin février, début mars. Sauf qu'il dit on est déjà dépassé, on va parler rapidement.
Les marchés bougent trop vite en ce moment, hein. C'est quand même relativement difficile pour se positionner en termes d'entreprise. Et puis, on attend de voir quand même si les réserves vont nous permettre de tenir, parce que je pense que seront totalement corrélées à une vraie augmentation.
Bon, on reste évidemment attentif à ce que dit l'Iran, qui n'a pas l'air de vouloir desserrer les taux sur le fameux détroit d'Hormuz. Alors, qu'impose des tarifs pour les pétroliers, les méthaniers qui passent?
Oui.
Même pour ses alliés, la Chine, la Russie, l'Inde.
Exactement.
Même eux doivent payer.
Exactement. En même temps, l'Iran a besoin d'argent en ce moment.
Oui.
Donc effectivement.
Et la Chine absorbe 90% du pétrole iranien, donc va échange de bons procédés.
C'est pour ça qu'ils étaient en train de râler ce matin aussi en disant il faudra peut-être que ça se stoppe.
Voilà. La Chine est sortie de sa réserve, on en parlait tout à l'heure.
Exactement. Au début, vous en parliez en disant là, ça suffit. Nous, on est là, on a. C'est-à-dire que
c'est un game changer quand même que cette phrase des Chinois. Là, on sent quand même que là,
ils étaient très silencieux depuis le début, effectivement. En fait, il gagnait sur tous les plans. De toute façon, il pouvait alimenter, etc. Mais là, on le voit bien, oui, effectivement, a priori, il y a une taxe pour laisser passer le bateau de 2 millions de dollars. Qui, comme des gens comme Costco, qui sont en fait dans le transport maritime, eux se disent, bah non, ça commence à être vraiment très cher. Même s'il y avait des politiques d'assurance du côté des US, où ils ont dit, bah écoutez, les réassureurs étaient prêts à mettre de l'argent supplémentaire pour laisser passer les bateaux. Bon, là, ça commence à être quand même difficile. Un détroit d'Hormuz qui est bloqué, on met des taxes, là c'est le jeu se durcit, puis on voit bien que l'Iran ne lâche pas non plus, Trump ne lâche pas non plus, donc effectivement ça commence à être un peu compliqué. Donc on va voir par rapport à l'état des stocks, combien de temps ça va quand même se diffuser.
Et vous avez vu le paradoxe de la situation, c'est que l'Iran, apparemment, d'après les chiffres qui nous parviennent, gagne de l'argent avec son pétrole et exporte même un petit peu plus de pétrole qu'avant le début de... Je crois de mémoire qu'avant le 28 février, ils exportaient en moyenne, je crois que c'était 1 734 000 barils par jour. Et depuis, sur moyenne du mois de mars... On est à 1 834 000, parce que faute de combattants, ils sont tout seuls. Voilà.
Oui, et puis il faut financer. Il faut financer
les fonds de guerre, le détroit est paralysé, donc plus personne n'exporte.
Exactement. Ouais. Donc aussi, bon, il doit partir sur peut-être des prix en moins. Oui. sur des cotations bah, éventuellement plus basses. Mais effectivement, en tout cas, les grands gagnants un peu et silencieux de tout ça, ça reste quand même. À la Russie, oui, effectivement. Oui. Enfin, pas l'Iran, mais en tout cas, ça leur bénéficie aussi. Quoi.
Ouais. Voilà. Voilà pour ce qui se passe du détroit d'Hormuz. On parle un petit peu de la France. Pendant ce temps, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte en France. Alors, vous avez vu qu'on commence quand même à lâcher ici ou là sur certains secteurs, mais il y a un discours assez ferme pour l'instant, assez catégorique. Quoi. On ne peut plus se permettre aujourd'hui ce qu'on se permettait il y a 4 ans, finalement. En
fait. Non, bah, de toute façon, c'est pour ça que la difficulté là, qu'on rencontre avec hausse, baisse des taux, en fait, c'est vraiment ces difficultés que rencontrent les États, la Banque centrale. Donc, est-ce que vous voulez faire une hausse et puis du coup, vous n'avez pas lutté contre l'inflation où il y a l'énergie qui vient d'augmenter. Donc, on le voit, ça commence un peu... Même, vous tendez l'oreille dans la rue, hein, dans un café. Hein, le pétrole, il est dans tous les esprits de tout le monde. Donc, effectivement, on n'a pas de latitude budgétaire, en tout cas, pour pouvoir subvenir peut-être aux besoins de tout le monde et d'aider toutes les entreprises avec des subventions. Donc ça va être beaucoup plus difficile.
Vous parlez de la Russie à quelques instants, un des gagnants de l'histoire, parce que les Russes alors peuvent bénéficier d'un moment de sympathie des Américains pour exporter du pétrole. Alors du pétrole qui est déjà chargé sur des cargos, c'est toujours ça le prix, vous me direz.
Oui.
Mais les Américains eux-mêmes raflent la mise dans l'histoire finalement. Voilà, on se posant comme alternative au gaz, notamment au gaz qatari, quoi, qui ne sort plus pour l'instant.
Exactement. Bah, c'est sûr que pour ces pays, de toute façon, les gagnants, ça reste la Russie, parce que du coup, leur économie. Ceux qui sont aussi relativement discrets, vous avez le Canada aussi, mais leur indice de corrélation face aux matières premières était de 0,7. Hein. Plus vous êtes proche de l'un, plus ça veut dire que vous êtes corrélé à ces activités.
Mais visiblement, ils n'ont pas suffisamment d'infrastructures pour répondre à l'éventuel regain de demande qui pourrait intervenir.
Effectivement, c'est toujours le problème.
Ils sont en train Oui.
Oui, mais c'est pour
ça. Même les États-Unis sont dans la même situation aujourd'hui. Il va y avoir une demande qui va aller crescendo. Est-ce qu'ils ont les infrastructures suffisantes pour répondre à cette demande? C'est pas sûr.
On n'est pas sûr, effectivement, de toutes ces infrastructures. Et puis, de toute façon, en tout cas, là, ce qui est quand même bon pour quand même le pétrole, quand vous avez dépassé les 50-60 dollars du baril, en fonction de vos activités onshore ou offshore, et si vous tendez vers 70, en tout cas, vous allez avoir de la rentabilité maintenant. Donc effectivement, vous pouvez éventuellement mettre plus de moyens. Là, je suppose que c'est combien de temps ça va durer sur ces prix-là, et du coup, ça sera lié, est-ce qu'on va consommer en fait quand même ces réserves. Autre grand gagnant, ça reste le Brésil qui vient reçoit un prêt de 500 millions, voilà, parce que on voit bien que Trump, il avait quand même commencé à parler au Canada, il a parlé au Groenland, il a fait son action sur le Venezuela, là il redescend un peu plus sur l'Amérique du Sud pour dire effectivement, tiens, les terres rares, est-ce que on peut s'en arranger ensemble? Est-ce que il y a peut-être pas besoin d'avoir la mainmise que de la part de la Chine qui raffine 99% des terres rares aujourd'hui. Donc c'est vrai que là il y a un enjeu, je pense, politique qui est devenu quand même beaucoup plus fort que les fondamentaux, même si on reste en disant on peut avoir des bons fondamentaux économiques derrière, en disant qu'il va y avoir une nouvelle personne à la Fed, qui va arriver avec des vraies envies. En tout cas, là, la géopolitique, elle a quand même pris le dessus hein, oui, sur tout le monde. Hein. On le voit vraiment. L'or aussi, il était à des niveaux pas possibles. Là, en fait, tout le monde s'est un peu servi, notamment sur les fonds de pension, en disant bah voilà, c'était de la valeur refuge, mais le dollar s'est renforcé. Donc, effectivement, vous jouez de l'autre côté aussi. C'est des vases communicantes. Et je pense que les investisseurs qui ont les moyens, en tout cas, là, peuvent. Ils ont un bon terrain de jeu assez dynamique. Après,
Où savoir aller, c'est ça. Vous voyez, la géopolitique a pris le dessus. Alors, c'est au bénéfice des Américains, des Russes dans une moindre mesure. L'Europe quand même, qui n'est pas la gagnante, qui est confrontée une fois de plus, qui se retrouve face à la réalité des chiffres, sa dépendance aux fossiles. En France, je crois qu'on est à 60% de dépendance aux énergies fossiles pour notre énergie. Facture à 60 milliards en 2024. 126 en 2022, il faut rappeler ce qu'avait été l'année 2022. Voilà, on se retrouve face à des décisions qu'on n'a pas prises finalement ces dernières années. Quoi. Enfin,
effectivement. La facture énergétique, vous l'avez vu dans le secteur aussi aérien.
Oui, bien sûr.
Tout le monde commence à fermer peut-être des lignes, de passer... vous avez budgété peut-être un prix à 200 et puis vous êtes passé à 460. Il y avait des compagnies aériennes qui avaient commencé à en parler il y a déjà deux semaines. Là, c'est des compagnies chinoises,
coréennes,
qui commencent à dire, je vais fermer des lignes, je vais prendre les avions qui consomment le moins de kérosène, et ça représente aujourd'hui 60% de leurs coûts. Donc, quand vous êtes dans une activité, en plus, peut-être de low cost, ça devient aussi un peu compliqué de tenir les prix. Donc...
Voilà où nous en sommes ce jeudi matin à 11h22 sur l'état des marchés, perception, toujours autant de questions, pas de questions véritablement élucidées cette nuit après l'intervention de Donald Trump donc devant l'opinion américaine. Merci beaucoup Olivier, merci de passer nous voir ce matin pour ce round-up avec nous sur les marchés, sur BFM Business, Olivier Le Chevalier, directeur général de DefEdge avec nous. Merci Olivier, à très vite, avec grand plaisir.